CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Oui, allô?
Ouais, Vince? Je t'ai encore pris.
Ah, t'es pas encore dans le fossé? Sérieux? T'es vraiment...
CFAQ, l'essence de la radio.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette deuxième émission de Dans le fossé. Ici William
et Vincent,
qui vous souhaite la bienvenue. Ce soir à l'émission, on va toucher en premier lieu l'anxiété chez les étudiants, sujet très important et d'actualité. Et en deuxième lieu, on va aborder l'anxiété, trouble général, plus dans ses détails.
Oui, exactement. Mais l'anxiété là, dans sa façon répandue là, dans notre société moderne. Là. Mais en fait, on va voir aussi que c'est pas seulement dans notre société moderne là, que l'anxiété. On en parlera davantage dans le deuxième bloc. On va, comme à chaque semaine, on va commencer avec les conditions routières, à savoir est-ce que c'est fort ou peu probable qu'on prenne le fossé. Dans notre émission 100% certain, on vous avertit d'avance. Pour ce qui est de la réalité, actuellement, là, à Sherbrooke, il faut se rappeler, on est pré-enregistré aujourd'hui. Mais donc les conditions vont changer. Donc on va parler du passé au moment où vous allez l'écouter. Température, ben il commence à faire froid, bien sûr. Condition de la chaussée, on a un vent à 5 km/h qui provient de l'ouest. Visibilité 16 km. Très pratique. Dans une région montagneuse comme l'Estrie, 16 km, à quoi ça sert? On se le demande quand même là, comme visibilité. Mais sinon, là, pour ce qui est des entraves, on a toujours les mêmes entraves que la semaine passée. Soit la route 112, donc l'ancienne route là, à la hauteur de Magog. Et une autre entrave qu'on a, eh bien, c'est la méconnaissance. Hein. Ça, c'est une entrave
très connue.
Très connue, mais qui n'a aucun rapport avec, notre émission.
Donc, les conditions sont relativement calmes. On rappelle aux gens à la maison qu'on n'a pas la science infuse sur tout ce qu'on dit à l'émission. On vient plus soulever des questionnements. Mais ça reste que les conditions de ce soir sont bonnes pour prendre le fossé. Mais... juste assez correct pour parler du sujet qu'on va parler ce soir.
Ouais, sujet quand même qui peut paraître lourd, mais je pense que, en tout cas, de mon côté, moi, je trouve que c'est important de parler de ces enjeux-là. Ils ont toujours été présents, puis le son se font de plus en plus ressentir là, avec le contexte actuel là, des différentes mesures qui sont prises pour les mesures socio-sanitaires,
exact.
Et les restrictions de regroupement, etc. Chose qui, on peut anticiper, va toucher particulièrement aussi les jeunes, je crois, les étudiants qui sont un peu plus dans une période pivot dans leur vie. Je sais pas si toi, tu voulais peut-être, tu me parlais que tu avais visionné une petite capsule là, à ce sujet-là là, par rapport à la pandémie et puis la situation actuelle de la santé mentale. Des étudiants et étudiantes.
Oui, exact. Dans le fond, Radio-Canada, cette semaine, a publié une capsule vidéo qui parlait de la santé mentale chez les étudiants. Il faisait lien aussi avec une étude qui avait été faite par l'Université de Sherbrooke. C'était pour démontrer un peu le portrait là, des étudiants qui devaient vivre chez eux en confinement, nouvellement dans la zone rouge. Je pense que le reportage mettait beaucoup l'accent là-dessus, sur comment certains étudiants avaient quitté leur région pour aller s'établir notamment à Montréal et sont maintenant confinés chez eux devant leur ordinateur. Puis c'était un peu le portrait là, de la santé étudiante en général. Ben, on sait que la santé étudiante a toujours été un enjeu. Si je me rappelle bien, à l'Université de Montréal, il y avait une campagne de la part de la FECUM au niveau de... ça s'appelait SAVA, point d'interrogation, campagne sur la santé mentale en 2016. Puis il y a eu suite à cette campagne-là en 2019 sur « Ça va aller ». Donc ça, c'était... avant-gardiste sur le slogan de la pandémie.
Ça va bien aller.
Ça va bien aller, exact. Mais non, mais c'était juste un rappel pour dire que ça a été toujours une préoccupation, la santé mentale, l'anxiété. Parce que, tu sais, ce que le reportage rapportait, là, environ, là, si je peux retrouver mes notes, c'est que chez les 18 à 24 ans, c'est 37% des répondants, c'est 6000 répondants qui avaient éprouvé des symptômes de dépression et d'anxiété depuis le début du confinement là, au niveau étudiant. Puis chez les adultes, ce chiffre-là baisse, c'est quand même élevé, 20%.
Quand même, c'est ça.
On parle surtout souvent de d'anxiété chez les étudiants, mais ça reste un trouble qui touche une énorme partie de la
population. Ça touche tout le monde, là, mais surtout dans le contexte actuel. Là. Mais en fait, je crois aussi que ben, c'est quelque chose qui, chez, si on parle de la communauté étudiante, je pense que c'est quelque chose universitaire, là, on va parler davantage de ça, mais c'est quelque chose qui a toujours été présent. Puis d'ailleurs, là, l'UEC, donc l'Union étudiante du Québec, là, s'est penché sur le dossier puis a mené une enquête en 2018 et on a finalement obtenu, là, vers la fin de 2019, là, on a obtenu les résultats dans leur rapport qu'ils ont publié. Donc les chiffres sont assez, ben, je peux dire inquiétants, là, mais...
Révélateur,
oui, mais quand même inquiétant aussi. Là, on va voir un peu si on se compare, si on compare la population étudiante au reste de la population québécoise. Par exemple, là, en termes de détresse psychologique, donc la détresse psychologique avait été évaluée sur une échelle de 1 à 24. Là. Dans la population québécoise, il y avait eu une enquête aussi qui avait été faite à ce sujet-là. Pour 2014 à 2015, dans les groupes d'âge, là, on avait chez les 15 à 24 ans, on avait 36,1% de la population des 15 à 24 ans qui se situe à un niveau élevé sur l'échelle de détresse psychologique. Et quand on va évaluer cette proportion-là des 15 à 24 ans qui sont également étudiants, là, on tombe à 55% des 18 à 24, des 15 à 24 ans, pardon, étudiants qui vivent de la détresse psychologique. Quand on voit un peu plus du côté là, des, je peux dire, les minorités, là, pardonnez-moi si ça peut, ça peut paraître, mais les minorités au sens de nombre, on parle des gens de diversité de genre. Donc, je rappelle, là, c'était de 1 à 24, là, l'échelle pour la détresse psychologique. On se situe à 12,16 en moyenne chez les étudiants de diversité de genre, tandis que chez les autres, donc on a 8. Donc on voit quand même qu'il y a un écart.
Il y a un écart de 4 points quand même.
Oui, c'est ça. Puis est-ce que c'est une marginalisation de ces gens-là qui amène peut-être une détresse psychologique plus importante? On a le même phénomène là, qui est chez les gens en situation de handicap, c'est un peu plus élevé également. Les gens d'orientation non hétérosexuelle aussi ont un indice là, un score de détresse psychologique plus élevé chez les étudiants que la moyenne des étudiants. Pour les symptômes dépressifs, là, ça continue. Non, mais je pense que c'est important. Cette étude-là a été d'une grande ampleur pan-québécoise. Puis je pense que ça vaut la peine de traiter de ces chiffres-là et de ce qui a été observé. Je vais commencer là, rapidement. Au niveau des étudiants et étudiantes qui présentaient, là, en général, là, 36% des étudiants et étudiantes avaient des symptômes légers de dépression. On avait 28% avec des symptômes modérés, 14% avec des symptômes modérément sévères et 5% avec des symptômes sévères. Puis pour ce qui est des 100 symptômes de dépression, on avait seulement 17%. Puis on remarque là, que la sévérité des symptômes est encore plus importante là, au premier cycle qu'au deuxième, troisième. Et finalement, là, ceux qui battent des records, c'est les gens en résidence en médecine. Au niveau de l'épuisement émotionnel, donc quand on se sent épuisé, on se sent indisponible à ce niveau-là, sur une échelle de 0 à 30, eux se situent à une moyenne de 17,4 comparativement à une moyenne là, d'environ 14% pour le reste de la population étudiante, là, tout cycle confondu. T'es capable d'en prendre un peu d'autres?
C'est beaucoup de statistiques en
c'est
très peu de temps.
Statistiques, mais c'est juste pour donner c'est juste pour donner une petite idée, mais vous irez la consulter. J'ai fait un effort ici de venir ressortir les principaux chiffres, là, parce que c'est quand même un document étoffé. Je vais finir, je crois, avec idées suicidaires et tentatives de suicide. Pardonnez-moi si ça peut être lourd, mais je pense qu'il faut en parler. C'est quand même impressionnant là, quand on regarde, là, on se compare, par exemple, on compare la population étudiante à la population québécoise en général. Chez les 15 à 24 ans, on avait 8,2% de cette population-là étudiante qui avait eu des idéations suicidaires au cours des 12 derniers mois qui précédaient l'enquête. Et puis, tandis que chez les 15 à 24 ans de la population québécoise en général, on avait 3,7% des gens qui avaient eu des idéations suicidaires. Donc, on a quand même 8% chez les étudiants versus, bon, quand même un 3%. Mais, tu sais, 8 personnes sur 100, en tout cas, moi, je trouve que les chiffres sont quand même...
C'est quand même très élevé. Puis dans ton étude, au mêlé un chiffre, est-ce qu'il parle des raisons pourquoi il explique que les étudiants seraient plus aptes à développer de l'anxiété, c'est les mots que je cherche.
Ouais, ben dans ce rapport-là, c'est sûr qu'ils font un peu... Ils présentent leurs principales revendications envers le gouvernement parce que ça naît d'une volonté de mettre la lumière, mettre l'emphase, pardonnez-moi mon anglicisme, là, mais de mettre la lumière, puis le spotlight, dans le fond, le spotlight sur cette problématique-là qui est vécue chez les étudiants au niveau de la santé psychologique. Puis bon, ils ont des revendications, mais les causes, je pense que si je peux y aller plus de mon opinion personnelle, j'ai pas lu dans son entièreté, là. Mais je pense que dans les causes, il y a beaucoup, mais tu sais, c'est la pression de performer, je trouve qu'on laisse peu de place à l'erreur dans le parcours, tu sais, comme on... C'est quand même encore stigmatisé de prendre beaucoup de temps au cégep ou de prendre beaucoup de temps à l'université avant de trouver quelque chose qui nous passionne vraiment puis dans lequel on veut faire notre vie, parce que c'est ça, ce modèle-là, un peu, je trouve que les générations précédentes nous ont vendu, c'est...
Légué.
Légué, ouais, c'est ça, c'est que, même des fois vendu, là, j'ai eu des bons speeches avec des gens... De générations antérieures qui m'ont affirmé l'importance de se trouver une job, sa profession, mais c'est pas facile. Puis je pense que cette pression-là, je pense qu'elle est liée pour beaucoup là, dans l'état psychologique. Là, puis toi.
C'est qu'on vit un clash en ce moment là, où les vieilles générations justement amenaient une mentalité différente, un lien différent que tu as avec ton travail. T'sais. Avant, tu allais à l'école pour apprendre un métier, tu trouvais un emploi que tu gardais pendant 30 ans, 35 ans, jusqu'à temps d'atteindre ta pleine pension, puis tu vivais après la retraite. Ta vie commençait un peu après la retraite. Je dis pas que ces gens-là ont pas eu de plaisir avant, tu sais. Mm-hmm. Mais le rapport au travail était bien différent. Tandis qu'aujourd'hui, on dirait que notre génération a l'impression qu'on se fait pousser dans le dos pour trouver rapidement quelque chose qu'on veut faire, trouver rapidement un sens à nos études, puis la marge d'erreur est mince, tu sais. Comme quand tu te penses, exemple, dans mon parcours, j'ai dû changer deux fois. Au lieu de faire mon cégep en 2 ans, je l'ai fait en 2 ans et demi. T'sais, ça m'a racheté 1 an. T'sais. Je suis chanceux que mes parents m'aient jamais mis de pression sur ce côté-là, tellement que ma mère pensait que j'allais pas aller à l'université. Elle disait que j'étais trop lâche. C'est correct, je t'aime pareil, maman. Mais finalement, je suis rendu à la maîtrise. Mais c'est vrai que je suis quand même lâche. C'est bon, là, je le dis quand même. Là, mais
pas pour la radio, en tout cas.
Pas pour la radio, en tout cas.
Non, ça, on se force.
T'sais, si on revient un peu sur le dossier des étudiants rapidement, l'isolement. Ça peut être une cause. La situation précaire, il ne faut pas oublier que quand on est étudiant, quand on fait un bac en sciences sociales générales, exemple sciences politiques, environnement, psychologie, je veux dire, c'est pas des diplômes à emploi direct. Donc, il y a un taux de placement plus bas. Donc, ça peut être une source de stress pour certains étudiants.
Si on prend des domaines, je suis d'accord avec toi, puis si on prend des domaines encore plus généraux, comme par exemple celui-là, nous, on étudie à la maîtrise en environnement. Okay? Mm-hmm. Donc, un domaine qui est super multidimensionnel, multidisciplinaire, super éclaté comme domaine d'études. Puis là, on arrive, puis même si les perspectives d'emploi ou le taux de placement, là, ce fameux argument-là qui fait qu'on devrait avaler la pilule pour faire « Ah, je fais ça pour ça », de toute façon, c'est une espèce de filet de sécurité de comme « Ah, mais 95% de taux de placement, OK, mais de taux de placement at large, mais moi, ce que je veux faire, moi, ce qui me drive, moi, ce qui fait que je me lève le matin puis je suis content d'aller au travail, tu sais, je suis pas certain que 95% des emplois vont m'amener là. Puis il y a ce stress-là, je pense, qui est à considérer.
Ah, c'est sûr.
On va clore là-dessus. On s'en va vers la pause publicitaire. Puis au retour, là, on embarque dans le gros sujet là, de l'anxiété.
Poursuivre sur celui-là, puis aller plus.
Je suis... Je suis celle qu'on
On est de retour à l'émission Dans le fossé. On vient d'entendre une chanson de l'artiste française Pomme, chanson intitulée Anxiété de son album Les Failles, un album qui traite des épisodes plus difficiles qu'on peut vivre dans notre vie, les différentes émotions qui s'y rattachent. Un album assez prenant, là. Je pense qu'on peut l'écouter à petite dose, mais une artiste forte, intéressante à découvrir. Donc, l'anxiété, le sujet principal aujourd'hui, on a parlé un peu plus de la santé psychologique des étudiants et étudiantes en première partie. On reste encore sur un sujet qui peut être plus profond, là, un peu, puis peut-être à la limite un peu plus lourd, mais on va essayer de le rendre un peu plus ludique, là, c'est cette partie-là de l'émission.
Le vulgariser, donc, du moins.
Ouais, c'est ça exactement. En fait, on va essayer plutôt de comprendre d'où est-ce que ça vient, plus d'un point de vue biologiquement. Ensuite de ça, on va se questionner sur qu'est-ce qui le déclenche chez l'humain, là, qu'est-ce qui le déclenche dans nos vies personnelles aussi, à moi et William. Et ensuite de ça, là, on va traiter un peu plus de comment on peut... c'est quoi les façons de le traiter, de s'en sortir, des outils, des choses comme ça. Puis, vous verrez, on terminera l'émission plus tard, là, sur la question de l'éco-anxiété. Donc, on commence ça. Le d'où est-ce que ça vient, l'anxiété? Est-ce que ça te dit, ça dit quelque chose?
D'où est-ce que ça vient?
D'où est-ce que ça vient, ouais.
La source, ça vient...
C'est biologique. Ça vient d'une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Donc, en anglais, amygdala. Donc, l'amygdale, non, les gens qui se sont fait enlever les amygdales sont pas des gens qui sont toujours calmes. On parle de l'amygdale qui est vraiment dans le cerveau. Pas dans... Bon, là, on peut-tu rendre ça un peu plus léger de temps en temps? Bon, l'amygdale, OK, ou autrement appelé le complexe amygdalien, qui est responsable, là, de la réponse face à un stimuli ou un stimulus. Un stimuli, des stimulus qui proviennent de notre environnement, donc c'est quelque chose qui est typiquement animal, et c'est dû à, par exemple, on s'imagine souvent l'exemple, c'est on se promène en forêt, on voit un ours, et là on a soudainement, là, on est pris d'une hausse d'adrénaline, respiration qui s'accélère, le cœur qui bat plus vite, la sueur, on est prêt à soit fuir ou se battre, et c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait naturel comme réaction, sauf que quand on vient parler d'anxiété ou d'angoisse, c'est le même phénomène qui se manifeste, mais suite à un élément déclencheur qui n'est pas un danger réel là, pour la personne, mais on vient quand même provoquer la même émotion, puis ça naît principalement de peur. Toi, est-ce que tu as des exemples dans ta vie qui, d'après toi, sont des choses qui peuvent venir déclencher une réaction plus d'anxiété, une espèce d'activation de ton corps, puis inconfort?
Je dirais qu'au début, quand on a choisi le sujet pour l'émission, je pensais que j'étais pas quelqu'un d'anxieux. Je pensais que j'étais un peu... Je pouvais pas être atteint par cette forme de stress-là. Puis quand j'ai regardé quelques documentaires, que je me suis renseigné sur le sujet, je me suis rendu compte que oui, j'avais des situations que je pouvais pointer, que j'étais capable de dire « Ah, là, j'ai fait de l'anxiété. » Puis ces situations-là sont surtout reliées à l'école. Surtout un nouveau, je pense, de l'anxiété de performance. Que ce soit, je suis quand même quelqu'un qui est quand même dernière minute dans ses travaux scolaires. Je fonctionne bien sous ce stress-là, mais je ne cacherai pas que ça vient. Il y a quand même une partie plus négative là, qui vient se sentir après, là, que ce soit un oral ou un texte à remettre. Surtout mi-session, fin de session, c'est là que je te dirais que je suis le plus anxieux. Je vois ces effets-là que tu parles, je les ressens. Là.
Fait que toi, quand il est sur Moodle, il est écrit remis 5 secondes à l'avance, c'est un classique ou?
De moins en moins.
De moins en moins.
C'est un mélange d'anxiété, puis quand je vois le 5 secondes, puis je l'ai remis, c'est un mélange de fierté. Je suis comme, yes.
C'est ça, c'est comme...
J'ai fait.
Ouais, ouais, c'est le point...
La tension à baisse.
La tension à baisse, c'est le point culminant. Ben d'ailleurs, c'est ce genre de peur-là, il y en a différentes qui peuvent provoquer de l'angoisse ou de l'anxiété. Là, l'anxiété qui est plus quelque chose de généralisé, de plus présent quotidiennement. L'angoisse qui est plus comme un état ponctuel, là. Qui se manifeste souvent sous forme de crise. D'ailleurs, on entend parler de crise de panique ou crise d'angoisse. Il y a quatre groupes là, dans un documentaire fort intéressant aussi. On parle souvent de documentaire. Dans le fond,
ouais, ça fait deux en
ça
deux.
Ça devrait s'appeler critique documentaire.
En gros, ouais.
Ouais, pas dans le fossé. Mais quatre groupes de peur. Donc, premièrement, la peur catastrophique. Donc, la peur que quelque chose de vraiment mauvais pourrait arriver. Donc, tout le temps dans l'anticipation, la réflexion. Moi, c'est... Moi, je dirais que je vais vous en parler un peu plus, mais je suis un peu un mélange de tout ça. Quelqu'un qui est assez anxieux dans la vie, mais heureusement, c'est une situation qui s'améliore. Donc, catastrophique, le premier groupe de peur, par exemple, la peur de se faire quitter, donc d'une rupture. La peur aussi d'être loin de ses proches. Donc, c'est ce sentiment-là anxiogène de dire « Ah, mes proches sont loin, mes amis sont loin ». Ça, c'est un des groupes de peur qui déclenche l'anxiété. On a également la peur de l'évaluation, donc qui surtout se manifeste sous forme d'anxiété sociale.
Ouais.
C'est la plus commune là, des formes d'anxiété. C'est une peur constante d'être observé ou d'être jugé, pardon. Donc, moi, je vais vous donner un exemple. C'est un peu honteux, mais il m'est arrivé parfois, surtout au cégep de Sherbrooke, là, il y avait j'étais dans le pavillon 2. Puis il y avait un ascenseur qui... J'avais 5 étages à monter, tu comprends? 4. Première année, j'avais 5 étages à monter, OK, dans les escaliers. Puis là, ça m'arrivait de prendre l'ascenseur, puis j'étais pas le seul. Mais je sais pas si j'étais le seul, par contre, à culpabiliser tant que ça là-dessus. Puis même que, tu sais, ça m'est déjà arrivé de prendre l'ascenseur, puis... de faire semblant en sortant que j'avais comme une condition qui faisait que c'était correct que je prenne l'ascenseur. Puis tu sais, moi, c'est souvent ça, c'est qu'on est dans notre tête, c'est l'appréhension, puis il n'y a personne qui nous juge, pardon, mais on est dans l'appréhension. Tu sais, par exemple, je suis dans l'ascenseur, puis là, je me dis, hey, d'un coup que j'arrive à un étage, puis les gens attendaient après l'ascenseur, puis c'est genre une civière, tu sais, genre quelqu'un qui a fait un malaise, je sais pas trop quoi, puis moi, je suis genre le cave qui veut pas monter deux étages avec ses jambes, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est bien stressant, ces situations-là. On continue, il y a aussi le groupe de peur de la perte de perdre le contrôle. Donc ça, c'est ce qui se rapproche de la crise d'angoisse.
Crise de panique,
quoi. C'est ça, exactement. On a l'impression que on n'est plus, dans le fond, le maître de notre destin ou on contrôle plus rien dans notre environnement, qu'on est un peu comme à la merci des tempêtes. Là. Fait que il y a cette forme-là également. Et il y a la peur de l'incertitude, donc ne pas savoir ce qui va se passer. Donc, qui se manifeste surtout sous forme d'anxiété généralisée et les troubles obsessionnels compulsifs. Peur de l'incertitude, par exemple, la peur peut-être de la mort.
Ah non.
Ah non, hein, pas ça.
Ça, c'est mon 2. L'autre type d'anxiété que j'ai ciblé chez moi, là. Mais ça fait longtemps, mais je savais pas que ça avait un nom que je pouvais comme mettre un doigt sur ce que c'était, en fait, le ressenti, ce que je ressentais quand je pensais, mais c'est assez automatique, là. Je sais pas pour toi, là, ce que ça représente pour toi, la mort. Tu sais, il y a tout le monde une expérience.
Ça a tellement changé dans ma vie, écoute. Ben, tu sais, je pense pas que je suis quelqu'un de fataliste, là, mais c'est une fatalité, dans le sens où est-ce que...
C'est inévitable.
T'sais, c'est ça, on peut pas célébrer la vie sans comprendre que... c'est quoi, ouais. C'est quoi la comment ça devient significatif de célébrer la vie dans une idée où que elle est comme éternelle? T'sais, je pense que ça vient d'autant plus donner une importance à ce cadeau-là qu'on a ou à cette expérience-là qu'on est d'être en vie. Fait que, mais en même temps, je me dis ça, mais pour vrai, je suis... ça, c'est une autre chose aussi. Je suis... tu sais, les gens qui ont peur d'avoir toutes les maladies du monde puis toutes les... hypochondriaques. Oh, mon Dieu. Là, c'est moins pire, là. C'est moins pire, là, mais écoute...
Genre, tu vas sur doctissimo.com, tu checkes tes symptômes, t'es comme... Et voilà,
ah, j'ai même
ça
pas besoin.
Ça me pique le bras gauche, j'ai le cancer.
Ouais, c'est ça. Ou mes os sont devenus trop mous pour supporter mon corps. Non, écoute... non, mais je t'ai dit ça, mais ça a pas toujours été facile, là. Ouais, mes parents pourraient t'en parler, là, comme... Tu sais, c'est ça, là, c'est... dans quoi ça se classerait... Ouais, catastrophique, je pense. Peur qu'il arrive quelque chose de mal, là. Mais c'est que ça devient tellement obsessif. Puis, tu sais, c'est surtout, c'est ça, c'est d'être dans sa tête puis de pas sentir qu'on a le contrôle. Je trouve que c'est vraiment ça qui vient nous... qui vient alimenter le tout. Et à amateur de statistiques que je suis, hein, on l'a constaté. Là, je vais pas vous...
submerger.
Vous submerger de toutes ces statistiques. Merci. Mais il n'y a pas, mondialement de consensus là, sur quelle proportion des humains sont affectés ou sont sujets à vivre de l'anxiété. Mais on parle d'environ près du tiers des gens qui sont disposés... soit par rapport à leur génétique, soit par rapport à leur environnement ou ce qu'ils vont vivre comme traumatisme au cours de leur vie, qui sont sujets à vivre de l'anxiété. Puis d'ailleurs, à ce sujet-là, il n'y a pas vraiment d'évidence historique que ça a augmenté cette proportion-là. Donc, ça aurait toujours été présent dans des proportions relativement semblables. Et ça, c'est une chose que j'ai appris qui m'a quand même vraiment surpris parce que moi, j'ai toujours été dans l'idée que c'est vraiment notre société moderne qui était comme le gros mal qui venait taper sur nos têtes puis qui faisait en sorte qu'on vivait de l'anxiété. Mais semblerait-il qu'il n'y a pas d'évidence scientifique que ça l'a augmenté. Et les femmes sont plus sujettes à vivre...
deux fois plus à risque.
D'anxiété. Effectivement. Des chiffres, encore une fois, très...
Révélateurs.
Voilà.
La situation actuelle.
Exactement. Au retour, on vous parle un peu des causes ou des prédispositions, les éléments qui viennent provoquer ou qui nous rendent plus sujets à vivre de l'anxiété. Quelle forme ça prend aujourd'hui, les façons de traiter la chose. Et on va aller dès maintenant avec une nouveauté francophone de Clopelgag. Bonne écoute. We'll be right back.
Donc, depuis 1985, la question est « What does Canada want? » Et on attend encore la réponse du Canada.
We have our own culture. We have a distinct language, French language. And it's a plus for all of us.
Rebonjour, vous êtes toujours sur les ondes de CFAQ dans l'émission Dans le fossé, toujours en compagnie de Vincent. Donc, vous venez d'écouter la chanson Rémora de l'artiste Claude Elgag, chanson de son album Notre-Dame des Sept Douleurs. Pour ceux et celles qui sont familiers avec le YouTuber The Needle Drop, Anthony Fantano, il a récemment fait une vidéo qui venait donner son opinion sur l'album de Claude Elgag. Donc, ceux qui connaissent le YouTuber, je vous invite à écouter la vidéo. C'est un clin d'œil puisque habituellement ce YouTuber-là fait des trucs un peu plus mainstream, plus culture américaine. Donc, c'est quand même intéressant qu'il s'intéresse à une artiste de chez nous. Donc, on est toujours sur le sujet de l'anxiété ici en onde.
Oui, on vous disait qu'on allait se questionner maintenant davantage sur les prédispositions ou les différentes causes là, créent des troubles d'anxiété chez certaines personnes. Puis, d'ailleurs, là, l'anxiété qui est approchée un peu comme quelque chose de... Il y a la volonté, je pense, au niveau des psychologues et tout expert de la santé mentale dans le monde de vouloir régler sont dans l'idée de régler le trouble de l'anxiété, mais paraîtrait-il que c'est quelque chose avec lequel une fois qu'on en vit, on va en vivre avec toute notre vie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie ou encore de solutions desquelles on peut se doter pour vivre avec un niveau acceptable d'anxiété. Mais avant tout, là, on vous parle d'où est-ce que ça peut venir. Il y a une partie qui serait génétique. Donc, d'ailleurs, génétiquement aussi, les femmes sont deux fois plus propices à développer des problèmes d'anxiété. Il y a une partie là, du rôle de la sérotonine, donc l'hormone un peu du bonheur, dans le cerveau qui serait suspectée comme ayant un impact sur l'anxiété. Aussi, ça peut venir de situations traumatisantes. Moi, j'en ai une. Je vais essayer de rendre ça quand même beau là, parce que c'était pas un moment glorieux dans ma vie. Je vais en parler tout de suite. Par exemple, là, je vais vous donner des exemples aussi avant. Ça peut être des relations douloureuses on en reparlera. Je vais vous parler de ma péripétie avant.
Vas-y, on t'écoute.
OK. J'étais jeune et naïf et je ne connaissais pas beaucoup ma limite de consommation d'alcool. Du temps où est-ce que sur la Galt ici, il y avait le bar la fac avant qu'il y ait le refuge des brasseurs, ce bar là sur 3 étages où on pouvait y perdre la raison et notre honneur. J'ai perdu mon honneur, j'ai aussi perdu mon portefeuille. Donc j'étais pas dans un état de gérer mes possessions personnelles. J'ai perdu mon portefeuille. Enfin bref, j'ai perdu mon portefeuille à cet événement là. Je me réveille le lendemain à comme 3 heures de l'après-midi parce que j'avais décidé que je commençais à hiberner aussi. Je me réveille à 3 heures de l'après-midi, puis bon, mon père m'explique que ça a coûté 80$ de taxi quand j'habitais à comme 20$ de taxi de là. J'avais plus mon portefeuille. Super comme lendemain de veille, pas trop dans un état psychologique intéressant non plus. J'ai perdu mon portefeuille. Écoute, j'avais tout là-dedans. Là. J'avais ma carte d'assurance sociale. Mon numéro d'assurance sociale, chose que d'ailleurs ne traînez pas votre numéro d'assurance sociale, il sert absolument à rien à votre portefeuille, à part vous faire peut-être voler votre identité. Donc là, je suis devenu super anxieux par rapport à ça, puis ça c'est même, tu sais, c'est devenu un peu quasiment comme un trouble obsessionnel compulsif. Là. Maintenant, ça s'est calmé un peu avec le temps, mais j'ai tout le temps l'impression que j'ai perdu mon portefeuille. Tu peux en témoigner, là.
Ouais,
j'ai tout le temps l'impression que j'ai perdu mon portefeuille, puis je vérifie cellulaire, clé, portefeuille. Tu sais, je peux vérifier ça. Avant, là, ça avait pas de bon sens. Je peux vérifier ça 15 fois dans une journée, 20 fois. Maintenant, tu sais, je vérifie qu'à quelques moments, je sais pas, ça s'est calmé, je me suis outillé, puis j'ai compris que j'avais le contrôle un peu sur tout ça. Mais tu sais, c'est un exemple de traumatisme qui peut. Fait que tu sais, de cette anxiété-là, de t'être dans l'idée que j'ai perdu quelque chose de précieux, tu sais, comme mon portefeuille, par exemple. Ensuite, oui, c'est ça, je voulais parler. Ça, c'est mes notes de cours. je voulais parler de ouais, c'est ça, les situations traumatisantes. Des exemples, par exemple, une relation douloureuse qu'on peut vivre, une personne qui agit d'une certaine façon avec nous, puis là, après ça, dans des futures relations, on va voir ces mêmes événements-là, puis la situation traumatisante va venir nous générer de l'anxiété, va faire en sorte qu'on va douter de est-ce qu'on veut vraiment s'en aller dans cette relation-là, parce qu'on y reconnaît des choses qui ont été traumatisantes, qu'on est dans cette spirale-là un peu, justement, de anxieuse. Puis les situations aussi traumatisantes, justement, ça peut mener vers ce qu'ils appellent la surgénéralisation. Prendre des événements isolés qui ont été troublants, puis venir généraliser que si je vis ça ou je suis dans ces circonstances-là, je vais revivre la même expérience négative. Mais à quelque part, ça vient de la nature. C'est une façon aussi de nous protéger. Là, par exemple, on sait que si on allait à cet endroit-là, notre vie était menacée. Bien là, on enregistrait ça dans notre disque dur. Notre cerveau faisait le lien, puis on n'allait pas à cet endroit-là. Ouais, donc, mais là, on le fait pour des choses qui sont pas vraiment dangereuses à ce point-là.
Ben, on se crée des craintes un peu à travers notre quotidien, là. À travers ce qu'on vit, on vient créer des craintes. De mon côté, moi, c'est plus... Je sais pas si on peut appeler ça de l'anxiété. Mais tu sais, avant de quitter chez moi, ben je vérifie 15 fois si j'ai barré à la porte. Puis c'est pas rare que je tourne le coin de la rue puis je fais comme... J'ai-tu barré à la porte? Puis là, je suis pas bien parce que je sais que l'autobus passe dans une minute. Puis il faut que je retourne chez nous voir si la porte est barrée.
Le syndrome du rond de poil.
Genre, ouais, c'est exactement ça. C'est con, là. C'est vraiment con. Des fois, je vais voir le poil, puis mais je l'ai même pas allumé, là. Ça fait deux jours, genre.
Ben, écoute, je suis pareil, là. Genre, comme... J'ai déjà appelé ma sœur pour lui dire « Est-ce que tu peux aller voir si la porte de mon appartement est barrée?
Hey, » ouais,
je suis comme à 5 heures de route. Je suis pas sûr, tu sais. Puis en même temps, je dis, j'avais mes colocs qui habitaient là, puis eux, ça en aurait pu y aller, tu sais. Ou ils habitent là, ils vont vérifier si c'est barré ou s'ils en vont, ils abordent. C'est pas vraiment nécessairement full rationnel.
Ouais, ouais.
C'est ça qui est... Puis c'est fâchant parce que ça vient comme full envahissant, puis ça prend le contrôle un peu de notre tête, là, quand on aimerait tellement être ailleurs, mettons, en vacances. On pense à toutes ces choses-là, c'est ça. Notre tête nous joue des tours.
Mais écoute, tu sais, je peux te donner un truc. J'ai réussi un peu à guérir de tout ça, de ce trouble-là un peu.
Vas-y.
C'est de prendre conscience du moment présent. Fait que le moment que tu sais où tu vas bugger, exemple, tu regardes le four avant de partir, tu regardes le four puis tu te dis, les ronds sont fermés. Tu prends conscience du moment présent. Genre, tu te le répètes dans ta tête puis tu prends le temps de le dire à voix haute. Comme ça, on dirait que tu prends conscience de ce que tu dis. Puis même chose quand tu barres la porte.
Mm-hmm.
Tu barres la porte, tu dis, j'ai barré la porte. Genre, c'est con.
Okay.
Ça a l'air stupide comme truc.
Tu te l'enregistres.
Ouais, c'est ça. Comme si tu narratais ta propre vie des gestes que tu fais. Ben, moi, j'ai personnellement vu une diminution de ce trouble-là d'anxiété de comme prendre l'autobus et faire genre. Parce qu'au secondaire, ça m'est arrivé aussi là, d'appeler genre ma grand-mère. Puis j'étais comme, peux-tu aller vérifier si j'ai barré à la porte? Parce que je pense qu'il y a des méchants qui vont vouloir rentrer voler mes Lego. Genre, tu sais, c'était.
Un bien précieux.
Exact.
En guérir de ça, tu sais, parfois on peut en guérir avec des moyens simples comme ça. Idéalement, c'est tout simple comme ça. Parfois, ça l'est un peu moins. C'est quelque chose qui a été très stigmatisé à travers le passé, là. Donc, l'idée d'aller chercher de l'aide ou de consulter, c'était vraiment plus tabou. Même que, tu sais, c'était tellement tabou que des gens se sont tournés vers des solutions, là, on va mettre des guillemets, comme la consommation de drogue ou des choses comme ça, pour passer au travers de l'angoisse puis des périodes de plus grande anxiété, voire même dépression, là, parce que l'anxiété peut effectivement mener jusqu'à la dépression. Il y a la Clinique internationale de psychopharmacologie qui a publié en 2015 et qui disait que les moyens des moins aux plus efficaces pour le traiter, l'anxiété, premièrement, il n'y a rien faire. Donc, on essaie de ne pas rien faire. Mais je comprends que des fois, on peut être longtemps là-dedans parce qu'on veut pas justement se l'avouer. Il y a l'exercice physique. Donc, tout ce qui peut être libéré par l'exercice physique. Il y a les pilules placebo, qui même sont plus efficaces que l'activité, je pensais pas. La thérapie, pleine conscience, la méditation pleine conscience, la médication ensuite de ça, puis finalement le plus efficace qui étant un combo de médication et de thérapie, mais je pense qu'il y a moyen de ne pas se rendre là. Faut commencer, je pense, par ne pas rien faire, tu sais, juste prendre des moyens.
De le reconnaître, c'est tout le temps la bonne première étape.
Ouais, c'est ça. Ben,
c'est la plus difficile de reconnaître qu'on a peut-être quelque chose de l'anxiété parce que ça peut paraître un peu un concept pour les c'est plate à dire pour les faibles, mais c'est vraiment pas ça. Il faut démystifier un peu ce mythe-là que les troubles anxieux sont associés à des personnes plus faibles. C'est le trouble le plus populaire, en guillemets, mais il n'est pas pour autant à négliger.
Tout à fait. On va aller vers la pause publicitaire et au retour, on va aller plus vers justement les moyens concrets de comment on peut s'en remettre, les stratégies qui ont été promues là, à travers la recherche là, pour lutter contre l'anxiété.
Un Québécois, pour moi, c'est quelqu'un qui décide de l'être, quelle que soit sa langue, son origine ethnique, la couleur de sa peau, son orientation
sexuelle. Un Québécois, faut être souverain.
J'en ai rien à cirer.
Un Québécois, faut être souverain.
Il faut vouloir faire du Québec son pays.
De retour à l'émission Dans le fossé, donc toujours en compagnie de notre William National et de Vincent moi-même. Donc on va clore un peu sur le sujet de l'anxiété plus comme générale avec des stratégies là, comme on en discutait avant la pause, des stratégies pour passer au travers et s'aider à réduire l'anxiété ou du moins l'emprise qu'elle a sur nos vies. Premièrement en fait, c'est de comprendre que c'est d'aller briser ces associations-là qu'on a fait dans notre tête entre les triggers, donc les éléments déclencheurs et l'anxiété qui le déclenche, pour comprendre qu'au final, on a le contrôle. Donc, ton truc, c'était un peu l'idée de comprendre que on a le contrôle, on enregistre que j'ai fait ça, j'ai bel et bien barré la porte. Puis ultimement, en fait, qu'on n'en meurt pas de ça. Là, même, il y avait une humoriste américaine qui, elle, faisait l'exercice de créer, dans le fond, avec son psychologue, de créer des situations super, des contextes là, ou des scénarios super anxiogènes qui l'amenaient vraiment à vivre des niveaux d'anxiété dans le tapis pour finalement se rendre compte, ben en fait, j'en meurs pas de ça. Tout naît un peu de ma tête. T'sais, oui, il y a des événements qu'on vit, puis des fois, c'est justifiable d'avoir de l'anxiété. Il ne faut pas comprendre non plus que c'est une maladie puis que c'est super négatif tout le temps. Mais il y a moyen de la gérer pour avoir une meilleure qualité de vie. Puis tu sais, il y a une quote qui, moi, on m'a toujours parlé, ou une citation qui, en anglais, là, on dit, c'est « It's okay not to be okay », dans le sens où est-ce que c'est correct des fois de ne pas aller bien. Puis ça fait partie aussi de la vie. On peut pas toujours... En tout cas, moi, je peux pas être toujours super pimpant de forme et de bonne humeur, mais ça s'améliore.
Ouais, c'est comme la fameuse question « Salut, ça va? Oui, toi? »
Ouais, c'est ça qui est au final.
Au final, c'est plus une politesse que vraiment savoir ce que l'autre personne, comment l'autre personne se sent.
Oui, exactement. Là, est-ce qu'on pourrait en parler les adages ou les formules sociales typiques qui, au final, ça veut pas dire...
Vivons-nous vraiment en société?
C'est ça. Sommes-nous en interaction ou c'est des bulles qui se fusionnent jamais puis on fait juste se bumper, tu sais, l'un l'autre? Comment s'aider pour réduire l'anxiété? Donc, première stratégie, se sentir en contrôle de sa vie. Donc, il y a une expression, c'est « do it bad », donc « fais le mal ». Quand on est plus dans l'hésitation puis qu'on veut décider, prendre un choix, puis que finalement, on fait rien, on demeure inactif puis on se met pas en action, ben l'expression « fais le mal », c'est dans le fond, arrête de viser la perfection, pardon, puis juste fais-le. Si tu te trompes ou si tu te plantes, ben au moins, tu as été en action. C'était pas tout le temps dans l'appréhension, la réflexion. Encore une fois, une citation d'un philosophe des temps modernes, on l'appelle
Chia LaBeouf,
et qui nous dit just do it, donc fais-le, puis si tu te trompes, ben tu te trompes, mais au moins on est dans l'action. Et deuxième stratégie, donner un sens un peu à sa vie. Donc, une signification à ce qu'on fait. Puis, l'exemple qui était donné, c'est de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc, dire, bon, ben moi, aujourd'hui, je vais lui partager telle connaissance que j'ai, je vais l'appuyer, je vais l'aider, je vais me donner cette mission-là d'aider tel groupe de personnes ou d'aider telle personne dans son cheminement personnel ou encore à l'école, dans une matière ou quoi que ce soit. Parce que, dans le fond, l'effet que ça a, c'est qu'on se sent utile et qu'on existe pour quelque chose. Puis, c'est quelque chose qui est apaisant et qui a été prouvé comme aidant à réduire l'anxiété. Donc, c'est ça, de partager, de faire des actions volontaires et de s'investir. Comme je pense que la radio, un peu pour nous, c'est un peu un exemple de ça. En tout cas, moi, ça me fait super du bien. Puis,
moi, c'est un stress positif. Je pense que la première émission, c'était de l'anxiété, un peu de performance. Je veux dire, si on revient aux définitions même de ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais c'est vraiment... ça fait sortir de chez nous, on voit des gens, l'aspect social, on sent un peu notre isolement d'école, comme on discutait au début de l'émission. Donc ça fait du bien là, de prendre l'autobus et de ne pas se dire « Ah, oh, je m'en viens étudier ou faire mes lectures pendant 4 heures. » Non, je m'en viens planifier, écrire une émission de radio.
C'est ça.
C'est valorisant. Chaque... Ouais. On n'est pas noté pour ce qu'on fait, mais on le fait parce qu'on a du plaisir, parce que c'est valorisant.
C'est ça. Puis à chaque semaine, moi, je me dis, je me lève. Ben, pas
chaque semaine. Chaque semaine, tu te lèves.
À chaque matin, je me lève, je pense à la radio. Non, ça, c'est trop intense. Mais je dis à chaque semaine, je me dis « Hey, cool, j'ai ce moment-là dans ma semaine. On se donne carte blanche, puis on se prend au sérieux, puis on va faire une émission à la radio. » Fait que,
exact.
Ouais, c'est ça. On pourrait finir rapidement là, avec une forme d'anxiété qui connaît un peu plus qui est un plus populaire, encore une fois, entre guillemets, avec notre génération. On parle de l'éco-anxiété. Donc, est-ce que tu voulais un peu nous alimenter là-dessus? Je pense que tu avais dit
en
que...
En 2 minutes, oui.
En 2 minutes, non, mais pour conclure, là, une petite ouverture...
Ben, l'éco-anxiété, c'est l'anxiété qui est reliée en fait au changement climatique, aux conditions de l'environnement. Depuis le début, en tout cas, on peut parler pour nous, moi et Vincent, depuis qu'on a commencé l'étude en environnement. Vincent, depuis plus longtemps que moi, ben, on est exposé aux notions environnementales qui, on va pas vous le cacher, sont assez négatives. Il y a pas grand-chose de positif qui se passe en environnement, donc c'est difficile des fois de gérer cette pression-là, de devenir un acteur de changement en se disant que tout ce qui se passe autour du concept d'environnement, il n'y a pas de changement, il y a très peu de volonté politique. Oui, il y a des mouvements sociaux, ça devient de plus en plus populaire, mais d'étudier dans cette négativité-là, faut rester focus, faut vraiment être passionné. C'est une vocation, au final, d'étudier dans ce domaine-là, parce que c'est difficile de trouver le positif du négatif.
Mmh. Puis on est bombardé, tu sais, quand on est le moindrement intéressé, on est bombardé de comme mauvaises nouvelles. Il y a une espèce qui s'éteint à tous les jours pratiquement. Tu sais, on est bombardé de tout ça, mais il y a un concept aussi intéressant là, pour terminer qui a été mis sur la table là, de réflexion là, autour de la question de l'éco-anxiété. On parle des cercles d'influence. Donc, nous, tu sais, personnellement, il faut comprendre c'est quoi l'influence qu'on a. Tu sais, le plus grand cercle dans lequel on peut se situer, c'est le cercle des préoccupations, comme atteindre les cibles de GES, réduire l'ampleur du réchauffement climatique, les îles de plastique dans l'océan, la pollution dans le monde, les espèces en voie de disparition, etc. Ça, c'est un gros cercle, puis c'est là qu'on est on en prend tellement large que c'est facile d'être plus anxieux. Là, on se rapproche un peu plus de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, mais notre cercle d'influence, lui, qui est plus petit, c'est d'écrire, de se prononcer, d'aller voter, de signer des pétitions. Puis encore plus proche de nous, il y a le cercle de contrôle sur lequel on devrait mettre le plus d'énergie. C'est de mieux et, par exemple, mieux et moins consommer. Changer ses habitudes, réduire la quantité de déchets qu'on va générer, s'impliquer, etc. Donc, en se rapprochant de ce cercle immédiat-là, on est en mesure de plus facilement lutter contre l'éco-anxiété.
Exact.
Donc, un épisode un peu plus dans nos têtes. Là,
théorique.
Ouais, théorique, mais quand même qui se reflète concrètement dans notre société.
C'est quand même intéressant de parler en début d'émission là, de l'anxiété chez les étudiants pour ensuite débouler vers l'anxiété en général, notamment avec les documentaires qu'on a écoutés, pour finalement aborder les trucs. J'espère que ça a pu aider quelques personnes là, d'aborder, que les gens à la maison qui souffrent d'anxiété, vous n'êtes pas seuls, vous devez vous en douter, mais que vous êtes plus nombreux que vous le croyez.
Merci William.
Merci à toi Vincent, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode super intéressant de Dans le fossé.
Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.